France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Boris Souvarine, Lénine l'avait pris en sympathie. Boris Souvarine, l'homme des débuts du bolchevisme à la française. L'homme qui publia, en France, le testament de Lénine. L'homme qui avait précédemment demandé, rencontrant Lénine à Moscou, de visiter aussi les anarchistes. Pas très en cours. L'homme qui dénonça le mensonge comme premier corollaire de la terreur. Les nuits magnétiques du 25 janvier 1985 étaient consacrées à Boris Souvarine.
Bonsoir. Boris Souvarine, le dernier des Mohicans, par Dominique Péju, Mehdi Eladj et Sylvie Péju.
Je suis né à Kiev le 24 octobre 1895, vieux style. Donc le 5 novembre, selon le calendrier grégorien. Mon père était un simple ouvrier de l'atelier Marchak, bien connu en ce temps pour son orfèvrerie d'église et productrice de risa, chasubles et garniture d'icônes ornées de joaillerie. En 1898, avec ma mère et leurs deux enfants, il se rendit en France. À 14 ans, j'ai commencé à gagner ma vie, sans vocation particulière, sauf celle du dessin. J'ai tenté de plusieurs métiers avant de me spécialiser dans l'art décoratif. Depuis 1910, je commençais à sympathiser avec les idées socialistes les plus vagues. La grande grève des cheminots, cette année-là, m'avait fortement impressionné. Je me mis à lire les journaux socialistes, syndicalistes, anarchistes, qui prenaient parti pour les ouvriers mal payés. Telle fut mon entrée dans le mouvement social, le marxisme, aux divers sens du terme, n'a rien à y voir.
De 1920, date de la fondation du Parti communiste français, à sa mort en novembre 1984, Boris Souvarine, seul Français membre du Comintern, proche de Lénine et de Trotsky, a suivi tout au long du siècle l'évolution du Parti communiste français. De son adhésion au bolchevisme à la critique virulente du stalinisme, en passant par sa polémique avec Trotsky exilé, il n'a cessé toute sa vie d'analyser les raisons de l'échec et de la dégénérescence des mouvements communistes sans se préoccuper de se trouver à contre-courant. Philippe Rebrieux, historien du Parti communiste français, Janine Verdès-Leroux, historienne, Branko Lazic, spécialiste de l'histoire du mouvement communiste international, Michel Heller, historien, Charles Ronsac, rédacteur en chef de Franc-Tireur, collaborateur à la critique sociale sous le pseudonyme de Charles Rosen, ont connu Boris Souvarine à différentes époques de sa vie.
Au printemps de 1846, Marx commença de créer à Bruxelles des comités de correspondance afin de susciter des échanges de vues entre socialistes de France, d'Angleterre et d'Allemagne, afin aussi de préparer les esprits à une action future dont il pressentait l'imminence. Il sollicita même le concours de Proudhon, qui déclina sa proposition. C'était déjà l'embryon d'une organisation internationale pour laquelle la Belgique offrait un terrain propice en tant que station intermédiaire entre la France et l'Allemagne. Bientôt, les comités révolutionnaires de Londres prirent l'initiative d'un congrès qui se tint en juin 1847 et donna naissance à la première Ligue des communistes. Marx ne put quitter Bruxelles pour y assister, mais Engels, délégué par le comité de correspondance parisien, y prit une part active et tous deux, pour remplacer l'ancienne devise « Tous les peuples sont frères », firent adopter le nouveau mot d'ordre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ».
Comment je l'ai rencontré? Ça fait très longtemps. C'était dans des bureaux, boulevard Saint-Germain, au détour d'un couloir.
Philippe Robrieux.
Il me semble même qu'il fumait encore à ce moment-là, je ne suis pas certain. En tout cas, il m'est apparu comme un homme de taille modeste, très dynamique. Et puis le temps a passé, et ensuite j'ai pris l'habitude, beaucoup plus tard, j'ai pris l'habitude d'aller chez lui pour consulter sa documentation, pour lui poser des questions, pour discuter avec lui. À chaque fois, ça se passait à peu près de la même manière. Il habitait un petit appartement qu'il partageait avec sa femme dans une résidence du troisième âge. Il était assis, je dirais plutôt affalé sur un petit fauteuil, tassé, apparemment assoupi. Alors je l'interpellais, il sursautait un petit peu. Et la conversation s'engageait toujours de la même façon. « Comment allez-vous ? » lui disais-je. « Mal. » Pendant de longues minutes, il m'énumérait tous les mots qui l'accablaient et qui, à l'entendre, le diminuaient. Il n'entendait plus, il ne voyait plus, il ne pouvait plus lire, il ne pouvait plus travailler, il avait tout oublié, il ne se rappelait plus de rien. Et puis, petit à petit, insensiblement, toujours de la même manière, il commençait à s'animer. La voix se faisait plus frappante, il discutait, il contredisait, il moquait, il racontait une anecdote, il dépeignait un personnage. Et quand j'en arrivais enfin au véritable objet de ma visite, qui était en général de retrouver un texte ou une citation totalement inconnue, ou du moins que je supposais connue seulement de lui en France et peut-être dans le monde, alors les lamentations recommençaient, je suis vieux, oh, vous me demandez là, je ne sais plus, j'ai tout oublié. Mais tout en parlant, il se levait et à petits pas, pressé, à pas compter mais à pas saccader, il plongeait dans une marée de papiers, de cartons remplis de documents et il me pêchait la brochure que je lui avais demandée, la citation que je cherchais, ou si c'était à propos de Lénine, dans les œuvres en russe, il allait droit au tome où il fallait aller, même si je n'avais pas de précision de date, tout en affectant une certaine coquetterie intellectuelle qui considérait, je ne sais pas, mais enfin, bon, vraiment, je ne me souviens plus, mais est-ce que c'est tout de même, ça doit être là, c'est ça. Et il ouvrait le livre toujours au bon endroit, du premier coup. Son premier contact avec le socialisme, d'après ce qu'il m'en a dit, c'est Jaurès, au fond, son premier souvenir, comme beaucoup. C'est un meeting de Jaurès. C'est ce socialisme-là. Effectivement, part au service militaire en 1913, qu'il y reste, puisque la guerre éclate en 1914, quand il y avait la loi de 3 ans. Et puis, en 1916, il revient à l'arrière, il est muté dans un bureau après avoir été au front, parce que son frère aîné avait été tué. Alors il devenait soutien de famille. Il y avait une loi qui disait que les soutiens de famille revenaient à l'arrière. Donc il est nommé dans un ministère. Là, il lisait l'Humanité. Vous voyez, il était déjà, nous dirions, un sympathisant. Alors il lisait l'Humanité dans son bureau, avant de commencer son travail de secrétaire, si vous voulez, au ministère de la guerre. Puis il avait laissé poser l'Humanité sur un coin de table. Et un jour, un jeune homme entre, voit l'Humanité et lui lance un clin d'œil de connivence. Bien. Et puis le même jeune homme revient peu avant midi et lui dit, écoutez, venez avec moi, je vous emmène, on va aller déjeuner avec des amis dans un petit bistrot des environs. Alors il suit, et là, il a retrouvé une série de militants et de responsables socialistes de la Fédération de la Haute-Vienne qui formaient les pacifistes, les premiers pacifistes à l'intérieur du Parti Socialiste, la première minorité pacifiste. Alors, il a sympathisé, il est entré au parti, il est devenu journaliste, tout ça en très peu de temps, en quelques mois. C'était la guerre, il y avait très peu de militants à l'arrière. Et tout de suite, il s'est fait remarquer par son talent de plume. Mais là, en 1916-1917, il est socialiste humaniste. Il est pacifiste, mais pas révolutionnaire. Il milite avec ceux de la Haute-Vienne et d'autres, notamment avec Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx. Il milite pour un arrêt de la guerre, une négociation, un règlement négocié de compromis. Alors que vous le savez, la thèse de Lénine, qui est encore en Suisse, c'est qu'il faut transformer la guerre en révolution. Et vous savez que Lénine combattait les pacifistes. Conséquence, après avoir lu des écrits de Souvarine, Lénine de Suisse critique Souvarine. Alors il y a un échange polémique entre Lénine et Souvarine. Souvarine, première version. Mais à vrai dire, Lénine ne savait pas très bien qui était Souvarine, et Souvarine savait à peine qui pouvait bien être Lénine. C'est leur premier contact.
Boris Souvarine est entré dans ma vie dans les années 25-26, vous savez, à quelques mois près, c'est difficile aujourd'hui, 50 ans plus tard. Et je l'ai connu, très bien connu, pendant les 10 années qui ont suivi.
Charles Ronsac.
À l'époque, j'étais avec d'autres jeunes gens et jeunes filles, un des adeptes d'un homme qui s'appelait Henri Marx, qui était un automatique, qui devait être joué aux Français, et qui avait fondé ce qu'on appelait à l'époque une université populaire. On était de gauche quand même à l'époque, sans être communiste. Il est venu chercher des membres du cercle qu'il allait fonder, qui s'est appelé le cercle Marx et Lénine. Ça s'est passé, je dirais, 1 an et demi, 2 ans après son exclusion du parti. Il avait gardé la direction du bulletin communiste qui avait été l'hebdomadaire du Parti communiste, mais qui est devenu ensuite, sous sa direction, le mensuel en principe, comme il s'intitulait, parce qu'il était périodique quand il pouvait, de l'opposition dont il était l'animateur. Et bon, nous sommes tous entrés donc là-dedans, tous, enfin tous ses camarades et moi-même, et je suis très vite devenu le secrétaire de cette organisation. Les gens que Boris Souvarine avait recrutés dans cette pépinière qui s'appelait Connaître, les uns sont entrés au parti sur sa demande. Les autres ne sont pas entrés au parti. Moi, il m'a fait entrer au parti.
Pourquoi ?
Parce que à l'époque, Souvarine estimait que le communisme était toujours là, et parce que il a le premier article numéro 1 du bulletin communiste Nouvelle Manière avait en tête un article Souvarine intitulé "Exclu mais communiste". Il était toujours communiste. Il se réclamait des quatre premiers congrès de l'International, de Lénine, de Trotsky, des pionniers, des chefs historiques de la Révolution. Simplement, il considérait que le parti avait dévié, n'est-ce pas, dégénéré. Mais il était toujours communiste, et il avait toujours l'arrière-pensée, enfin l'arrière-pensée au sens le moins péjoratif du mot, de reprendre le parti en main, de régénérer le parti. Donc il voulait des gens qui, de l'intérieur, pourraient compléter le travail que lui faisait de l'extérieur. Et comme je travaillais dans le 9e arrondissement, qui est l'arrondissement du siège du parti à l'époque, rue Lafayette, je suis entré par hasard, miraculeusement, dans la cellule même du secrétaire du parti de l'époque, qui s'appelait Pierre Sémard. Il y a eu, en 1926, est sorti grâce à un trotskiste, un intellectuel, un historien américain nommé Max Eastman, le testament de Lénine. Un testament dans lequel Lénine met en garde ses camarades du parti contre la brutalité, contre les mœurs, contre les manières d'être, de vivre, de travailler de Staline, en quelque sorte, déconseillait aux autres chefs bolcheviques de prendre Staline comme secrétaire du parti pour lui succéder après sa mort. Et bon, il faisait plutôt l'éloge de Trotsky tout en la critiquant. Vous connaissez certainement, beaucoup connaissent ce document qui depuis a été publié. Ce testament de Lénine, qui va jouer un rôle important dans la suite des événements, est paru ensuite, mais sous forme d'extrait seulement, dans la Révolution prolétarienne. Souvarine, lui, dans cette année, entre 26 et 27, comme il espérait que les instances supérieures de l'International lui donneraient raison contre ses adversaires au parti, dont le chef était Albert Train, il avait décidé de suspendre la publication du bulletin communiste, de ne pas ruer dans les brancards, de ne pas publier de documents du type testament de Lénine, etc. Mais quand on a vu ce qui se passait, évidemment, il a publié le testament de Lénine. Et moi, dans cette cellule, c'est un souvenir personnel qui ne manque pas de drôlerie, J'ai lu tout haut un jour, en présence de Pierre Sémard et du co-secrétaire du parti qui s'appelait Bouteiller, un nom comme ça. J'ai lu et diffusé le testament de Lénine, et Pierre Sémard s'est mis à dire « Ah, la voilà, la droite internationale !» Il avait une voix comme ça. Bon, je dirais rien de plus de Sémard qui est mort, vous savez, fusillé par les nazis pendant la guerre, mais enfin, il était notre adversaire. Donc, quelques mois plus tard, également publié dans le bulletin, grâce à Boris Souvarine, qui commentait tout ça toujours. Il y a eu la fameuse lettre de Krupskaya à Trotsky qui montrait, qui révélait au monde que la veuve de Lénine était, si j'ose dire, trotskiste. Quelque chose d'assez inattendu.
La révolution russe, surtout la seconde révolution russe, la révolution d'octobre, les a séduits pourquoi ? Pas pour des raisons de doctrine, mais pour des raisons plus profondes, plus sentimentales, plus puissantes, qui tenaient au refus de la guerre, au dégoût de la guerre. Ce qui a fait l'immense popularité de la révolution russe à ce moment-là, c'est sa dénonciation de la guerre, c'est son mot d'ordre de paix immédiate. Alors, D'ailleurs, quand vous regardez la section socialiste dans laquelle Souvarine se trouvait en 1917, 1918, 1919, la 9e section, qui était la section des journalistes, des artistes, des écrivains, des intellectuels, alors, vous y trouvez des hommes qui sont devenus, dès 1918, 1919, les gauchistes de ce temps. Il y a aussi un jeune homme totalement inconnu, un Vietnamien qui retouche des photographies, qui arrive à 30 ans, qui s'appelle Ho Chi Minh, que Souvarine connaît bien, qu'il présentera à Paul Louis, qui est le grand spécialiste des questions coloniales dans le Parti Socialiste. Et puis, il y a des figures tout à fait étonnantes de gauchistes de ce temps-là. Dès 1919, Souvarine est un des deux militants responsables les plus importants du comité pour l'adhésion à la Troisième Internationale. À ce moment-là, le contact avec les bolcheviks, c'est la guerre civile en Russie, c'est aussi le cordon sanitaire, puisque la guerre européenne est terminée, on essaye... Le cordon sanitaire, j'utilise les expressions du temps, les expressions de la politique officielle, des gouvernants. On essaye d'isoler, d'empêcher la contamination. Alors, le contact se fait par la Suisse, toujours. Près de la frontière suisse, non loin d'Annecy, il y a une institutrice qui est une belle figure de militante aussi, qui s'appelle Lucie Colliard. Et puis, entre Lucie Colliard et Boris Souvarine, qui travaille à Paris avec Fernand Loriot, un autre instituteur, militant pacifiste du Parti Socialiste, qui est lui aussi maintenant leader de la gauche pro-bolchevique, il y a un chauffeur de locomotive qui s'appelle Lucien Midol, qui lui restera au PCF jusqu'au bout. Alors, on échange les messages, les nouvelles, les informations, l'aide, la coordination, par le canal Souvarine-Loriot, Midol et sa locomotive, Lucie Colliard, qui passe à pied la frontière clandestinement, et l'antenne suisse des bolcheviks. Voilà les débuts du bolchevisme à la française, si vous voulez. Ça commence comme ça. Au moment du congrès de Tours, Souvarine arrêté, Souvarine emprisonné dans l'affaire grotesque du complot avec Pierre Monnat, parce que le gouvernement s'affolait, mais la police n'était pas de première force, comme le sont les polices totalitaires, le résultat étant que les autres envoyés du Comintern et des bolcheviks, les successeurs de Holtzmann, et notamment Zalewski Abramovitch, venus à Paris pour influer sur le congrès de Tours, ont pu aller visiter Souvarine en prison au congrès de Tours. Alors là, Souvarine a rédigé la résolution en discutant avec Zalewski et en soumettant certains passages aux uns et aux autres parmi ses camarades qui étaient emprisonnés. Contrairement à une légende tenace, La résolution du congrès de Tours est distincte des 21 conditions, des fameuses 21 conditions d'adhésion à l'international communiste. Elle est un compromis entre les idées du vieux Parti socialiste et les idées bolcheviques que résument et synthétisent les 21 conditions. Pour être plus clair, la résolution du congrès de Tours ne reprend qu'une partie des 21 conditions, et une partie seulement. Alors après, il est sorti en mars de prison, il a été acquitté avec ses camarades. Et tout de suite après, il est parti pour aller, comme on disait, en Russie révolutionnaire. On ne disait pas encore en URSS, on disait en Russie révolutionnaire. Et naturellement, à peine arrivés, on leur a fait savoir qu'ils allaient être reçus par Lénine. Alors ils ont été reçus par Lénine, qui était accompagné de Zinoviev et de Belakoun, si j'ai bonne mémoire, et de Boukharine. Alors ils ont vu Lénine, Loriot et Souvarine. Et ça a été une discussion épique qui a commencé comme cela, parce que Lénine était un homme très carré. Il a dit « Alors, camarades français, quand est-ce que vous nous faites la révolution ?» Et Souvarine a pris la parole à cette petite table ronde informelle. Il a dit, camarade Lénine, il n'y aura pas de révolution parce que la situation n'est pas révolutionnaire. Pourquoi n'est-elle pas révolutionnaire? Parce que les soldats qui reviennent du front où ils ont tant souffert n'aspirent qu'au repos, à la détente et à la paix. Et Lénine a pris Souvarine en sympathie. Alors ensuite, Souvarine, qui avait une très très forte personnalité dès ce temps-là, était un grand admirateur des révolutionnaires russes, mais qui n'était pas un inconditionnel, il n'y avait pas encore d'inconditionnel. Souvarine a demandé à visiter les anarchistes. Et il y avait des anarchistes qui avaient été emprisonnés parce qu'ils s'étaient révoltés, ils avaient réagi contre le nouveau régime. Alors il a demandé à aller les voir en prison. Il voulait voir comment, quelles conditions leur faisaient en prison. Alors, l'intermédiaire entre le parti bolchevique et la délégation française s'en est scandalisé. Et ça a fait une affaire terrible et Souvarine a été accusé de comploter contre le régime, de chercher la petite bête et puis surtout de chercher à nuire, n'est-ce pas, de chercher à salir. Et l'affaire est remontée jusqu'à Lénine. En même temps, Souvarine, de son côté, a protesté devant telles accusations. Alors on a réuni une commission mixte entre la délégation française et les bolcheviques, et cette commission mixte a donné raison à Souvarine. Et puis, quant à Lénine, il a dit « Souvarine !» Mais pas du tout, mais il faut le prendre. Il faut le prendre à la direction de l'International Communiste. C'est un bon militant, il va travailler avec nous, il verra que c'est pas facile. Il comprendra tout. Belakoune, au contraire, était partisan, lui, de sanctions, comme d'habitude. Et finalement, le point de vue de Lénine l'a emporté, et c'est comme ça que Souvarine est devenu secrétaire de l'International Communiste.
Seul, en 1924, j'avais pris la défense de Trotsky, surtout pour des raisons morales, parce qu'il était calomnié, vilipendé, donc promis à une répression injuste et cruelle. J'ai publié en français sa brochure « Cours nouveau » pour qu'elle ne soit pas condamnée sans avoir été lue. Ce fut le motif de ma disgrâce, de mon exclusion du mouvement communiste. J'ai pris la parole à Moscou devant une assemblée hostile, le congrès du Parti unique, pour dire que le dénigrement de Trotsky en public portait préjudice au régime soviétique lui-même. Politiciens et journalistes, ignorants et bavards, m'ont taxé gratuitement de trotskisme. Cela n'existait pas lors du conflit où je me suis prononcé à Moscou contre le mensonge et l'arbitraire officiel. Trotsky et ses partisans répudiaient alors énergiquement et sincèrement, tout trotskisme.
Как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Потом, в том, в нашем числе, как раз те классы, которые...
C'est un événement aussi au siècle, le suicide de Joffé. Adolphe Joffé, c'était un diplomate, un des grands diplomates de la Révolution russe. C'est lui qui a négocié auprès de Trotsky le fameux paix de Brest-Litovsk. Il a été le premier ambassadeur de l'Union soviétique à Berlin, mais pas longtemps, parce qu'on l'a expulsé très vite, en 1918. Et il était très lié à Trotsky. Et lorsque Trotsky a été exclu du parti, en 27, il s'est suicidé pour protester contre l'exclusion de Trotsky. Il a laissé une lettre bouleversante que nous avons publiée et diffusée. Je me rappelle, moi, personnellement, avec d'autres camarades, nous sommes allés un soir à une séance de cinéma, un cinéma de Grenelle, où l'on représentait le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Donc il y avait une foule très sympathisante, et là nous avons jeté, il y a eu des cris et des horions, nous avons jeté ce tract partout. Moi j'étais au premier étage, là, au balcon, on a jeté le tract sur le suicide de Joffé. Ça, c'était en novembre 27. Et puis, il y a eu la déportation de Trotsky, autre gros événement, n'est-ce pas? C'était en 1929. Là, nous avons publié également un texte. J'ai tous ces textes, intitulé « Un crime », n'est-ce pas? Ça a été la protestation contre l'exil, la déportation de Trotsky. Si vous voulez, en gros, ce sont ces événements-là que je peux maintenant raconter. Alors, ça n'a pas, on ne s'en est pas tenu là. Plus tard, alors, moi, je fais mon service. Bon, et quand je suis revenu, le cercle communiste, le cercle Marx et Lénine s'est transformé en cercle communiste démocratique. Là, il faut dire que ça correspond aussi à une évolution dans la pensée de Souvarine et de ses camarades que nous étions. En ce sens que, bon, si vous voulez, à partir du moment où on estime que la dictature du prolétariat, qui théoriquement était le but, n'est-ce pas, proclamé par Marx et puis par Lénine, est devenue, si on peut dire, c'est un mot de Boris d'ailleurs, une dictature du parti sur le prolétariat, nous avons repris et gardé la formule, mais en élargissant, nous avons préconisé une dictature démocratique du prolétariat, comme si les deux termes n'étaient pas antinomiques. Mais ça, c'était, je ne dirais pas des erreurs de jeunesse, mais enfin, c'était notre raisonnement à l'époque.
Le communisme international traverse une phase très caractérisée de déclin. Depuis notre échec d'octobre 1923 en Allemagne, tous nos partis, sauf celui de Russie qui exige une étude à part, ont connu l'affaiblissement de leurs effectifs et, ce qui est infiniment plus grave, l'abaissement de leur niveau intellectuel et moral, l'effacement graduel de leur influence.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou.
C'est donc cet homme, jeune socialiste d'un pacifisme particulier pendant la guerre de 14,
Jeannine Verdès-Leroux,
qui va être d'abord critique de la révolution de 17. On a des traces dans la presse anarchiste, puis qui se convertit littéralement et bizarrement au bolchevisme. Et je l'ai pressé de questions là-dessus, et ça n'était même pas très clair pour lui. Il me parlait des polémiques du temps, de la violence, des sottises de la bourgeoisie qui l'avaient amené à se radicaliser. Mais je crois qu'au fond, lui-même, ça n'était pas très clair pourquoi il avait si brusquement abandonner sa position critique. Puis pendant quelques années, il était donc devenu ce communitérien en poste à Moscou, ayant des rapports difficiles avec le parti français. Et puis, il lui était arrivé cette chose assez impressionnante historiquement. Il a été le premier exclu par la Troisième Internationale. C'est une grande exclusion en séance plénière, après des péripéties complexes. Ce qui prouve déjà une personnalité étonnante, c'est qu'il n'assistait même pas à la séance de son exclusion. Il se baladait dans Moscou, et il y a eu, dans un grand congrès de l'international, trois personnes à l'époque, donc l'été 24, pour ne pas voter son exclusion. L'un d'eux était Togliatti, qui mettait pour la première fois les pieds à Moscou, et qui déjà n'était pas parfaitement orthodoxe. Après, il y a eu une petite phase très bizarre où Souvarine est resté en URSS, sur lequel il raconte des choses passionnantes. Il reste pendant 6 mois. C'est-à-dire on pouvait être exclu à l'époque de l'international et ne pas avoir d'ennui. Et alors il en profite pour aller se balader dans le sud de l'URSS, vivre dans une petite commune et réfléchir à la politique, mais en ayant donc perdu ses fonctions, en étant, comme il dit, soulagé, en même temps écœuré de ce qu'il avait vu. Et il avait à l'époque le projet de rester en URSS et de voir comment se construit une société socialiste, et assure-t-il de ne plus faire de politique. Et puis très vite, la situation, quelques mois après la mort de Lénine, change. Elle était totalement arbitraire, elle devient de plus en plus totalitaire, et il se sait à ce moment-là menacé de déportation. Et il doit donc, contre son désir, envisager un retour en France, ce qu'il fait en janvier 25.
On est frappé aussi de la fréquence d'une expression, d'intention apologétique, consistant à comparer le parti à un mur. Le parti a été un véritable mur. L'opposition s'est heurtée à un mur. Évidemment, si le parti est un mur, l'opposition a bien tort de vouloir le chapitrer. Comment discuter avec un mur? D'habitude, pour bien marquer l'inaptitude au raisonnement d'un interlocuteur, on dit « autant s'adresser à un mur ». Les ci-devant bolcheviques ont fait leur idéal d'un tel mur. Ils se vantent d'avoir fait de leur parti un mur. Un mur derrière lequel il se passe quelque chose dont, hélas, ils n'ont pas l'air de se rendre compte.
Malgré l'exclusion, il est à ce moment-là profondément convaincu d'être toujours communiste, toujours révolutionnaire, marxiste évidemment, et il a toute une activité de, je veux dire, dans des groupuscules qu'il essaie de reconstituer. Il relance un bulletin. Il est extrêmement actif sur le plan politique. Et alors cette phase 25-39, qui est celle qui me passionne, parce que vous voyez comment cet homme, c'est non pas un communiste qui devient anticommuniste, comme ça, on ne sait pas comment, c'est un esprit très, très curieux, très critique, qui étudie tout, et qui écrit, mais semaine après semaine, dans des tas de revues, de bulletins, écrit des livres, etc., et qui se met à remettre en cause tout ce qu'il sait ou croit savoir, toutes les notions, toutes les réalités. Alors, le marxisme, la révolution, l'internationalisme, la notion de parti, etc. Et alors, à la fois, il est quelqu'un qui observe de manière extraordinaire ce qui se passe en URSS, et qui en est un connaisseur exceptionnel. Il a écrit des 26-27 des textes qui, encore aujourd'hui, peuvent se lire, qui sont d'une exactitude, d'une connaissance inimaginable. Il essaie même d'être réintégré dans le mouvement communiste. Et il pense, si vous voulez, qu'il maintient le communisme contre tout ce qui a été dévoyé, selon lui, dès la mort de Lénine et l'éviction de Trotsky. Et alors vous voyez là, dans cette période, un homme toujours en train de chercher, toujours en train de se corriger, toujours en train d'évoluer, se lançant dans des polémiques. En particulier, il a en 29 une polémique que je trouve absolument extraordinaire avec Trotsky. Extraordinaire parce que, si vous voulez, Trotsky, c'est donc un chef prestigieux entre tous. Il vient juste d'être exilé, il a une autorité formidable. Puis Souvarine, ça n'est personne en 29. Personne ne le connaît plus. Il a fait un court passage dans le mouvement communiste. C'est encore un homme très jeune. Et alors que tout le monde parle à Trotsky avec un espèce de respect avilissant, lui engueule littéralement Trotsky, mais avec une argumentation formidable. Et à des courtes lettres de Trotsky, extrêmement vitilleuses, il répond par des grandes analyses politiques, d'une hardiesse, d'une originalité. Et c'est une occasion pour lui, en 29, de faire une espèce de bond dans sa pensée. À l'occasion de cet affrontement, il vérifie lui-même où il en est, ce qu'il croit, ce qu'il sait. Et c'est certainement un des premiers décrochages très nets dans son itinéraire de communisme. Et néanmoins, dans ces années-là, il va continuer à tourner autour de ces notions. Au moment où il lance sa critique sociale en 31, il se situe quand même très nettement dans un courant marxiste.
Ne me dites pas que toute action économique a un caractère politique. Je le sais aussi bien que vous. Mais les prolétaires anglais ne le savent pas, eux. Et il s'agit de le leur faire comprendre. Avec vos procédés, vous les confirmez dans leur tradition. Dans votre motion au comité central du parti sur le comité anglo-russe, tenant seulement 2 pages du bulletin communiste, j'ai noté 25 fois les mots « traître » et « trahison », sans compter bon nombre de félonies, perfidies et autres. Vous avez 25 fois tort de souligner ainsi votre indigence d'argument. Si cette motion contenait plus d'idées, elle aurait moins besoin d'adjectifs. quand une trahison est le fait de plusieurs millions d'hommes simultanément, ce n'est plus une trahison dans le sens banal. C'est une évolution ou une déviation historique dont il faut étudier les raisons sociales et tirer toutes les conséquences sans se laisser aller à des formules qui soulagent et simplifient, mais n'expliquent rien. Le travaillisme anglais, l'austro-marxisme, la social-démocratie d'après-guerre méritent autre chose qu'une épithète. Surtout que les communistes, dans l'état de déchéance indescriptible où ils s'enlisent, n'ont vraiment pas qualité pour censurer tout le monde et son père. N'est-il pas pénible de voir un parti, une internationale, dont tous les représentants notoires ont été exclus comme variété de traîtres au cours d'une dizaine d'années, s'arroger le droit de dénoncer des traîtres dans les partis voisins? Les oppositions, pour commencer, devraient donner l'exemple de la décence et de l'objectivité.
Alors, dans ce cercle, il y avait à l'époque des gens qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Un de nos principaux camarades était un garçon qui fera parler de lui plus tard, qui s'appelait Pierre Kahn, qui était un philosophe, K2AN. On le retrouvera d'ailleurs par la suite dans tous les organes du cercle et dans la critique sociale. Et il était professeur universitaire et il deviendra pendant la guerre l'assistant de Jean Moulin, qui le chargera fin 43 d'une mission très importante à Paris pour préparer l'organisation du gouvernement provisoire de la République. Il sera arrêté à ce moment-là, il sera déporté et il mourra au moment de la libération des suites de maladies contractées dans la déportation, n'est-ce pas? Ses parents, d'ailleurs, ont été également déportés et eux, assassinés par les nazis.
Son frère
André Kahn, agrégé de philo, grand hegelien, grand spécialiste de Hegel, a été également déporté, mais lui est revenu, il est mort plus tard. Bon, alors, il y avait donc Pierre Kahn, qui était un de mes grands amis. Il y a eu pendant un certain temps, mais ça c'était plutôt après les années, c'était en cercle communiste démocratique, il y a eu Simone Veil, W-E-I-L, grande philosophe, agrégée, qui a été une amie. Bon, c'était une révolutionnaire qui est devenue catholique, un peu mystique, n'est-ce pas, mais qui à l'époque est allée à Berlin, elle a fait des grandes études sur les événements, sur les débuts du nazisme, les événements d'Allemagne.
Alors là, je voudrais dire, parce que c'était pour lui essentiel, qu'il y avait une grande amitié dans sa vie, qui était donc Simone Veil, qui était morte très jeune en 43, qu'il avait connue dans les années 30, qui avait contribué un peu à la critique sociale, et sur lequel il me disait toujours que dans 3-4 ans, quand il aurait fini ses mémoires, il allait écrire un livre. Et la dernière fois que je l'ai vu, quand nous ressortions de son appartement, il fallait traverser une petite entrée, et à gauche, il y avait tous les écrits de Simone Veil et tout ce qui avait été écrit sur Simone Veil. Et à chaque fois, nous faisions une halte devant ce meuble, et il me disait cette phrase, enfin, qui était très étonnante, vu son âge et sa solennité habituelle. « Ah, la petite Simone demande son livre. »
Et puis, alors, il y a eu quelques-uns des hommes qui formeront le mouvement surréaliste. Parmi eux, le premier, c'était Georges Bataille. Il n'est pas resté longtemps, Georges Bataille. Il n'est pas resté longtemps parce que, bon, il avait des divergences, ce serait inutile d'entrer dans les détails, divergences avec nous, avec Souvarine. Raymond Queneau, mais très peu. On le reverra au moment où on fera la critique sociale. À la critique sociale, on voyait Bataille, Queneau, Léris, Jacques Baron. Jacques Baron, mais il a fait des petites collaborations, Jacques Baron. On l'a vu au cercle un petit peu aussi, Jacques Baron. Voilà, j'ai oublié de parler d'une personne qui a joué un rôle dans la vie de Boris Souvarine et en partie dans son activité, c'est Colette Peignot. Colette Peignot, c'était la fille c'était la fille de Charles Pignot, et qui était un imprimeur graveur connu à l'époque. Il dirigeait Arts et Métiers Graphiques, je crois, oui. Elle est arrivée dans ce milieu, dans le cercle, probablement au début des années 30, venant de Moscou. Elle avait fait un séjour à Moscou. Et Colette Pignot est entrée dans la vie de Boris Savoyne et est devenue son amie intime. Ça a été son grand amour, je dois dire. Ça a été son seul grand amour avant son mariage plus tard. Bon, elle a travaillé, je crois qu'elle a aidé. Elle a aidé Boris Souvarine quand il a fait la critique sociale. Je ne veux pas entrer dans la vie privée ni de Boris ni de Colette, n'est-ce pas, parce que plus tard, elle a quitté Boris Souvarine. Après Boris, elle a vécu avec Georges Bataille. Et elle m'a demandé de l'aider, et je l'ai fait entrer comme secrétaire de rédaction au journal de Mickey. Et quand Boris, avant que Boris n'entreprenne son gros travail sur Staline, il faisait beaucoup d'articles sur la situation en Union soviétique. Et puis quand il s'est mis à faire son Staline, n'est-ce pas, d'autres ont pris sa place, et Colette Pignot, qui connaissait la Russie et à qui Boris communiquait beaucoup de documents, parce qu'elle se débrouillait en russe aussi, n'est-ce pas, la presse soviétique, etc., a fait des chroniques sur la vie en URSS, la situation en URSS, la famine en URSS, la crise en URSS, etc., etc., sur toutes les chroniques.
Colette Pignot est morte en 1938. Elle laissait une somme d'écrits signée du nom de l'or que l'éditeur Jean-Jacques Pauvert a publié en 1977 avec des textes de Georges Bataille.
Les choses qui vont contribuer plus à son évolution à ce moment-là, c'est de voir ce qui se passe en Allemagne. Je crois que peu de gens ont écrit des textes aussi remarquables que lui sur la montée du nazisme et sur le rôle que jouait le Parti communiste allemand. Alors que beaucoup de gens ont cru que la prise du pouvoir de Hitler allait être éphémère, lui voit que ça va être durable. Et surtout, dès 1931, en voyant les oscillations du Parti communiste allemand et sa démagogie, il voit comment tous ces échanges et cette espèce de façon qu'a le parti allemand de ménager les nazis en croyant récupérer la clientèle des nazis va en fait profiter au parti nazi le moment venu. Et il y a là des analyses exceptionnelles. Alors donc le nazisme qu'il voit très bien, ça compte beaucoup. Une autre chose qui va compter extraordinairement pour lui, c'est la guerre d'Espagne. Pour des raisons de fond, il s'est toujours intéressé à la politique internationale, et pour des raisons plus familiales, sa sœur Jeanne était mariée à Maureen, qui était un des leaders du PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, qui était un mouvement né en 1935, issu de tas d'anciens communistes, et qui est vraiment l'aile gauche, surtout pas trotskiste, contrairement à ce que tout le monde écrit, dans la guerre civile. Et alors là, Souvarine montre une fois de plus qu'il est assez extraordinaire, c'est-à-dire que très tôt, il est quelqu'un qui voit bon, à la fois très bien ce qu'est le soulèvement militaire franquiste, et très bien qu'à partir du moment où Staline a mis ses forces dans la balance du côté des républicains, ce n'est plus le mouvement espagnol républicain qui a des chances de l'emporter, mais que ces gens vont être broyés par l'appareil stalinien. Et donc très tôt, il demande une paix sans vainqueur ni vaincu en Espagne. Et c'est l'époque des grands procès de Moscou. Alors là, dans ce livre, j'ai pris seulement quelques textes. Il en écrit à l'époque beaucoup. C'est-à-dire, c'est un homme à la fois qui connaît tous les personnages des trois procès de 36, 37, 38 et qui vraiment analyse très bien le comportement des accusés et des accusateurs. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, les gens qui sont communistes prennent le parti des accusateurs, c'est-à-dire de Staline, puis le reste de l'opinion prend à tout hasard parti pour les victimes. Et Souvarine, dans des analyses tout à fait hardies, qui sont presque choquantes encore, attaque avec un talent d'écriture extraordinaire la lâcheté et la complicité qui lie les victimes d'aujourd'hui à leurs bourreaux. Et il montre comment tous ces gens, avant d'en arriver à s'accuser de tout, à avouer les choses les plus abominables et les plus fausses, avaient participé aux luttes pour le pouvoir. Et il dit qu'entre Staline et ceux qui l'assassinent en prétendant qu'ils ont voulu l'assassiner, il n'y a pas de différence, que ce sont tous des hommes médiocres.
Hatten in den Adern heißes Blut, als sie Cäsar einst tyrannisch reizte, kochte es sofort in Siedeglut. Nicht die Warnung konnte Cäsar hindern, hüte vor des Märzes Iden dich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich. Er verfolgte seine frechen Ziele und sah schon als Herrn der Römer sich. Immer schlimmer schlug in die Verblendung, nur sein Wort galt noch im Kapitol und den Weisen.
L'URSS est le pays du mensonge absolu, du mensonge intégral. Staline et ses sujets mentent toujours, à tout instant, en toutes circonstances, et à force de mentir, ne savent même plus s'ils mentent. Il baigne dans une atmosphère saturée de mensonges. Et quand chacun ment, personne ne ment plus en mentant. Là où tout ment, rien ne ment. L'URSS n'est que mensonge de la base au fait. Dans les quatre mots que représentent ces quatre initiales, il n'y a pas moins de quatre mensonges. La Constitution contient plusieurs mensonges par article. Le mensonge est l'élément naturel de la société pseudo-soviétique. Staline, d'après la loi fondamentale, n'existe pas. Mensonge. Le GPU, selon les définitions juridiques, n'existe plus. Mensonge. Le Politburo, suivant les documents officiels, n'a jamais existé. Mensonge. Le parti, élite de la population, mensonge. Les droits du peuple, la démocratie, les libertés, mensonge. Les plans quinquennaux, les statistiques, les résultats, les réalisations, mensonges. Les textes et les chiffres, mensonges. Les emprunts, les souscriptions, mensonges. Les preuves, mensonges. Les photos, mensonges. Les témoins, les témoignages, faux témoins, faux témoignages. Les assemblées, les congrès, théâtre, mise en scène. La dictature du prolétariat, immense imposture. La spontanéité des masses, méticuleuse organisation. La droite, la gauche, mensonge et mensonge. Stakhanov, un menteur. Le stakhanovisme, un mensonge. La vie joyeuse, une farce lugubre. L'homme nouveau, un ancien gorille. La culture, une inculture. Le chef génial, un tyran obtus. Le socialisme, un mensonge éhonté. La plus heureuse jeunesse du monde, le plus grand mensonge du monde. L'unanimité, mensonge. Le trotskisme, mensonge. Le terrorisme, mensonge. L'espionnage, mensonge. Même le beurre mélangé de clous, ce ne peut être qu'un énorme mensonge, au prix exorbitant où sont les clous soviétiques, d'ailleurs introuvables. Unique réalité, la terreur qui décompose les esprits et empoisonne les consciences. Le mensonge est le premier corollaire de la terreur.
fait la connaissance de Boris en 1952.
Branko Lazic.
Il venait de lire le livre que j'ai publié, préfacé par Raymond Aron, Lénine et la Troisième Internationale. Et je suis venu le voir et il m'a engagé pour la revue Est-Ouest. Quand j'ai appris que j'allais voir Souvarine, ça m'a fait un choc, comme si je faisais un retour dans l'histoire, puisque le nom de Souvarine, pour moi, était lié aux autres noms, soit de l'international communiste, soit du parti bolchevique, qui étaient tous morts. Je suis allé le voir, on a discuté quelques minutes, et tout de suite, c'était évident, Staline qui était encore en vie, et la discussion tournait sur le congrès qui devait avoir lieu à Moscou. Souvarine m'a parlé du congrès, c'était le 19e congrès du parti, et j'étais chez lui le jour où on a publié la liste du nouveau présidium, du nouveau bureau politique du parti bolchevique, donc la direction suprême. Jusqu'à maintenant, elle se composait toujours, cette direction, de 11, 12 personnes. Et subitement, Staline avait nommé 25 personnes. Et Boris m'a regardé, il m'a dit, vous savez pourquoi il a fait ça? Je dis, je n'ai la moindre idée. Mais il dit, mais il se prépare de liquider les vieux pour laisser la place aux jeunes. Il se prépare à une nouvelle purge. Je dois dire que, comme explication, ça m'a paru un peu osé. Et évidemment, il fallait, quelques mois plus tard, la mort de Staline, et les révélations de l'affaire Beria, et ensuite les révélations de Khrouchtchev pour constater que Boris avait raison 100%. Donc c'est le premier point concernant Staline. Deuxième point, c'est après la mort de Staline, il s'est mis à étudier avec un vieux bolchevique, un vieux menchevique russe, Valentinov, la vie de Staline sous son aspect pathologique. Et ils sont arrivés à la conclusion, collaborés par le témoignage des anciens ministres de Staline, que Staline avait accès de furie et de folie. Et une fois de plus, je dis à Boris que je suis un peu sceptique sur cette explication. Une fois de plus, les événements lui ont donné raison, puisque c'est la base même du raisonnement de Khrouchtchev. Depuis lors, j'ai acquis la conviction que, si vous voulez que je parle comme un croyant, qu'il était infaillible en matière de Staline. Que c'était l'homme qui pouvait imaginer ce que Staline pensait. Il se mettait dans la peau du personnage de Staline, comme un acteur génial se mettait dans la peau du personnage. Et sur Staline, il n'avait pas commis une seule erreur. La preuve, quand il a réédité son livre, 30 ans plus tard, il n'a pas changé une seule virgule.
Staline est sorti en 1935. Il a à peu près, si vous voulez, fait la révision complète de toutes ses notions, de toutes ses passions politiques. Et ce qui va l'achever, c'est le pacte germano-soviétique en août 1939. Qu'il y ait cette alliance entre les nazis et l'URSS ne le surprend pas. Bien des mois avant, il avait écrit des articles annonçant que c'était ce que Staline cherchait, n'avait pas été entendu. Et quand le pacte a lieu et quand il voit que le parti communiste français approuve le pacte, je crois que c'est pour lui la fin de tout. Et ça se continuera pour lui par quelque chose. Alors là, je regrette qu'il n'y ait aucune trace de ça, de la chose dont il parlait avec un désespoir inimaginable, c'est la défaite et l'invasion de la France.
Il vous en parlait, à vous?
Je pense que la dernière fois que je l'ai vu en octobre, il y a deux choses dont nous avons parlé qui n'avaient rien à voir avec mon travail. C'est d'une part Verdun. Vous savez, il venait d'y avoir la rencontre entre le chancelier Kohl et Mitterrand. Et Souvarine s'est mis à me parler de Verdun avec un sens dramatique que je ne peux pas rendre, en évoquant, donc, il y avait aussi 400 000 morts du côté allemand et 360 000 du côté français. Et vraiment, il arrivait à me rendre compréhensible le désespoir qu'avait été pour tous les hommes de cette génération, cette espèce de mort absurde, brutale, de centaines de milliers de jeunes gens. Nous, on les voit, on a l'impression que c'est des grands-pères, mais non, c'était des hommes tout jeunes. Ils vivaient ça encore avec une intensité que moi, je n'ai jamais vue chez personne. C'était bouleversant. Et l'autre chose dont il m'avait parlé ce jour-là, mais alors il en parlait à chaque fois, c'était le désespoir de la défaite de la France, qu'à la fois il attendait, mais qui était insupportable. Et il en parlait encore, donc longtemps après, et il décrivait encore son désarroi. C'est pas du tout un type qui disait, moi, j'ai su ce qu'il fallait faire le 18 ou le 19 juin. Il a mis des mois à essayer de comprendre ou à penser qu'il y avait un espoir. Ça a été, disait-il, l'époque la plus atroce de sa vie. Et il en parlait extraordinairement.
En 1941, Boris Souvarine gagne les États-Unis. Embauché par les services secrets de la France libre, il est écarté du Brain Trust du président Roosevelt par un lobby pro-russe fort influent. Il rentre en France l'année 1947.
Des lettres françaises. Télégramme de Louis Aragon adressé à Constantin Simonov. Literaturnaïa Gazeta, Moscou. Journal Les Lettres Françaises. Vous exprime stupeur douloureuse. Tous intellectuels progressistes français. Nouvelle santé camarade Staline. Et leur espérance voir conserver pour humanité tout entière celui à qui notre pays doit sa liberté et qui mène combat pour maintenir paix et bonheur des peuples.
Le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Виссарионович Сталин.
От имени советского правительства я обращаюсь к вам, командиры бойцы Красной армии и армии наших союзников.
Un des rares enregistrements de la voix de Staline, le discours qu'il adressa aux armées soviétiques et aux armées alliées en avril 1945, au moment de la chute de Berlin.
На территории Германии.
Dimanche soir à 11h, la dernière garde d'honneur autour du catafalque est prise par les membres du Présidium du Conseil des ministres et par quelques hauts dignitaires du parti et du gouvernement. Les obsèques de Staline ont lieu le lendemain à 10h, en présence des dirigeants communistes du monde entier.
Staline, continuateur de Marx et d'Engels, associé et continuateur de Lénine, aura marqué de son empreinte notre époque. Son œuvre pratique est considérable. Elle est indissociable d'une œuvre théorique que nous devons plus que jamais assimiler et mettre en valeur. Il était réservé à deux hommes de grand génie, Lénine et Staline, de se pénétrer profondément de cette œuvre et d'apporter les preuves expérimentales les plus éclatantes de sa valeur. En effet, combien il est fécond de lire les discours et notes de Lénine et Staline à telles époques précises et de trouver dans les faits qui ont suivi leurs conséquences directes la preuve expérimentale de la justesse de la pensée marxiste qui préparait l'action et conduisait au succès. Tout ceci doit bien mettre en lumière la grande perte que le monde du progrès vient de subir en perdant un maître tel que Staline. Frédéric Joliot. En nous quittant, Staline nous laisse la carte du futur. Ainsi, il est vivant. Il reste à la barre. Il a si bien devancé la mort que nous pouvons marcher longtemps sur la voie qu'il a jalonnée. Il n'a pas disparu dans le passé. Il s'est enfoncé dans l'avenir. Pierre Courtade. Mettre le roman ou le film à la hauteur de ce que Mayakovsky fait dans ses poèmes. Seul Staline pouvait apprendre aux écrivains, aux cinéastes, à maîtriser de tels sujets. Pierre Dex. Cette nuit-là, derrière les fenêtres closes, Moscou tremblait. Tous écoutaient frémir le Moscou des vainqueurs, océan de silence aux berges du Kremlin. Et le deuil s'engouffra par les mots du speaker. La nuit devint la nuit, et le monde orphelin. Henri Bassis. Sans doute, chaque fois qu'un grand homme meurt, y a-t-il quelque chose qui frémit et qui laissera toujours cette pensée que tous les hommes viennent de perdre ce qui ne sera jamais plus et qui ne pouvait naître que de cet homme-là. J'ai souvent relu, et toujours avec un serrement de cœur, ces cinq pages de Victor Hugo dans « Choses vues » où il raconte la mort de Balzac sans élever la voix presque sèchement et rentrant chez lui. C'était un dimanche. Je trouvais plusieurs personnes qui m'attendaient. Je leur dis « Messieurs, l'Europe va perdre un grand esprit. » Ce n'était que Balzac, ce n'est pas pareil. Louis Aragon.
Il fallait à la longue un aveuglement étrange et tenace pour ne pas savoir ce qu'était Staline. Pour ne pas le comprendre, ne pas lire dans son jeu implacable. Même après le massacre des infortunés polonais, en majorité des officiers de réserve sans défense, massacre froidement conçu et commandé afin de saigner à blanc l'intelligentsia de la Pologne. Pendant toute la guerre, Staline n'a cessé de poursuivre son génocide propre à plusieurs fins, selon ses critères personnels, au service de ce que ses complices masqueront sous la formule du culte de la personnalité. La nomenclature de ses obsessions, de ses phobies, de ses délires accompagnés ou suivis d'actes meurtriers exigerait tout un chapitre. On n'a jamais su exactement en quoi avait consisté une certaine affaire de Leningrad qui a décimé les cadres supérieurs du parti dans cette ville. Ce qui paraît indiscutable, c'est que pour Staline, il n'y a que les morts qui ne parlent pas, qui ne reviendront jamais. Le nécrologe est interminable de ce régime terroriste dont l'espèce de fascination exercée sur les représentants de l'Occident civilisé est peu intelligible.
Concerne cet isolement qui est une constante de la vie de Souvarine, c'est une chose dont nous avons toujours parlé. C'était même quelque chose sur laquelle j'avais écrit quelques lignes dans un article qu'il avait lu et discuté. Si vous voulez, il est seul quand il est au départ réellement quelqu'un qui prend au sérieux la révolution russe et l'international et ses exigences, alors que le Parti communiste français à ses débuts, c'est un parti tout à fait indiscipliné, avec plein de tendances, avec des débats, où personne ne sait trop ce que c'est, ni le marxisme, ni le communisme. C'est un parti assez drôle, assez absurde, sans ligne. Et Souvarine, tout seul, de loin, essaie de lui en donner une. Écrit des lettres absolument furieuses, passionnées, qui restent souvent sans réponse. J'ai donné une lettre de lui, écrit, où il dit « c'est la dixième lettre que j'écris, et ne serait-ce que par politesse, vous devez me répondre ». Et il était dans une situation difficile, parce que quand à Moscou, il fallait traiter du parti français, bien lui, délégué français, ne savait pas ce qui se passait dans son parti. Donc il est isolé, il est quelqu'un qui, dès le début, est une espèce d'intransigeance, alors qu'il y a dans ce parti une coexistence de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire un parti qui très vite va perdre ses adhérents et ses leaders, et où personne, au fond, ne prend très au sérieux les exigences des Russes. Et puis après, eh bien, au moment où, j'allais dire, ça prend le mythe russe, le mythe soviétique en France, lui, c'est le moment où il est désillusionné, désaveuglé, désenchanté, et où il est en train de faire ce chemin que nous avons appelé à contre-courant. Alors il faut bien voir, ceci est une phrase qu'il avait écrite très tôt et que je lui redisais souvent dans nos discussions, qu'il vaut mieux se mettre tout le monde à dos que de se mettre à plat ventre. Et c'est ce qu'il a fait, extrêmement tôt. Il pensait que ce qui était important, c'était de dire le vrai, sans aucun souci de l'écho qu'on avait. Il y a même une lettre de lui à un moment, quand il est encore communiste, où le parti français dit vraiment... Souvarine prend une position qui ne va pas être populaire. Et alors ce mot le fait rire. Cette idée de chercher la popularité, il dit effectivement, si c'est une question de popularité, en effet, Souvarine n'est pas populaire. Et ça, il ne s'en occupe pas.
Il a été pas seulement isolé sur le plan de l'écriture, mais sur le plan des relations humaines. Il avait une bibliothèque au Boulevard Saint-Germain qui était la meilleure en France sur les affaires communistes. Et je travaillais avec lui pendant 10 ans, tous les après-midi. Mais il y avait... Il s'est passé quelquefois des jours, sinon des semaines, où personne ne venait consulter, demander quelque chose, profiter de la connaissance de cet homme, n'est-ce pas? Il était pendant très longtemps presque enterré vivant. Et il avait pris de contact avec des étrangers, des gens qui venaient le voir, des Anglais, des Italiens, des Suisses, des Allemands, des exilés russes. Chez lui, j'ai déjeuné avec Alexandre Kerensky, président du gouvernement provisoire russe que Lénine a renversé. Donc, il avait établi les liens avec les Russes démocrates et socialistes qu'il avait combattus quand il était communiste. Lui aussi, il a fait son repentir. Donc, autant il était impitoyable à l'égard des socialistes, sociaux-démocrates russes quand il était communiste, autant il était humain quand ils étaient venus comme réfugiés en France. Réfugiés devant Staline, réfugiés devant Hitler, il les a beaucoup aidés, il a été fidèle à eux jusqu'au dernier menchevique qui est mort. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore un menchevique qui est en vie, qui est en Hollande, c'est le dernier de cette espèce qui existe au monde.
Avant-guerre, c'est vraiment un homme qui argumente, qui analyse. Puis après-guerre, c'est déjà un homme qui a vieilli, qui a l'impression qu'on ne l'entend pas, et qui trop souvent, je crois, donne ses conclusions.
Quand j'ai venu en France de Moscou...
Michel Heller.
Je savais que Boris Souvarine existait. J'ai vu son nom seulement quelques fois dans le livre soviétique. Pour la première fois dans un livre de Staline qui était édité en 1929 sur l'opposition... Et cet livre était après censuré par Staline lui-même, mais dans ce livre, c'est un recueil des référats de Staline, Staline parle de Souvarine comme d'un oppositionnaire. Et après, je me souvenais bien, Staline a parlé de Souvarine en 1937 dans tristement célèbre plénum du comité central où Staline a demandé à lutter contre l'ennemi qui est partout. Et parmi les ennemis à l'étranger, Staline a nommé Souvarine. Et je crois, après, quand je pensais à nos conversations, à ces articles, à lettres qu'il m'a écrites, je pensais que la force extraordinaire de Souvarine était pas seulement son génie politique, mais aussi la connaissance parfaite des deux mondes.
Il était surtout impitoyable pour les gens en Occident qui tranchaient ces problèmes sans rien savoir, et ils sont évidemment des légions et des légions. Il est intarissable sur l'ignorance des hommes politiques et des journalistes. Et comme je disais une fois, Boris lit, les gens lisent le journal pour trouver des informations, Boris lit le journal pour trouver des erreurs.
Il ne reprochait pas à Solzhenitsyn son combat, il l'a dit. Il admirait l'écrivain, il admirait encore le dissident, courageux. Il était solidaire de la victime, mais il n'était pas d'accord avec l'historien. Parce que non content d'être un grand écrivain, et il est un grand écrivain, d'avoir été un homme courageux, et il a été un homme courageux, d'avoir été en quelque sorte un prophète, et il a été un prophète aussi, il voulait être aussi un philosophe et un historien. Mais à partir du moment où vous voulez être un philosophe et un historien, il faut accepter d'être discuté, et c'est ce qu'a fait Boris Souvarine. Et en substance, Boris Souvarine lui a dit « Non, vous vous trompez, Lénine, ce n'était pas ça ». Lénine est responsable parce qu'on est toujours responsable de son œuvre, mais Lénine n'est pas Staline. On peut reprocher à Lénine l'arrivée de Staline, mais on ne peut pas dire que c'est la même chose. Toute la discussion est là. Alors que la thèse de Solzhenitsyn pourrait être résumée à peu près, en simplifiant bien sûr, de la façon suivante. Lénine et Staline, c'est pareil, seulement là où Staline fusillait 5 personnes, Lénine n'en fusillait qu'une parce qu'il était plus intelligent. Donc plus économe. Voilà toute la discussion et voilà, si vous voulez, le sens des critiques que Boris Souvarine lui adressait. En plus, naturellement, il lui a fait des critiques érudites, parce que, bien sûr, le Lénine à Zurich de Solzhenitsyn est, si vous voulez, erroné sur des points de fait.
Il s'en est suivi toute une polémique que je trouve désolante, parce qu'elle repose sur un grand malentendu. Mais elle m'intéresse parce que pour tous les gens qui racontent des choses diverses sur le fait qu'il avait eu tel ou tel rapport jusqu'à la fin de sa vie à Lénine, j'ai même lu récemment, après sa mort, en relisant tout ce qu'on a pu écrire sur lui, quelqu'un qui parlait de sa fidélité à Lénine, et bien dans ce texte d'avril 76, qui est donc cette analyse de Solzhenitsyn, et où il proteste contre une erreur de Solzhenitsyn, il écrit « Il est trop légitime de professer contre Lénine des griefs inexpiables, ne serait-ce que pour sa pseudo-dictature du prolétariat, ainsi dénommée par antiphrase, en réalité sur et contre prolétariat, comme sur et contre la société de son pays, et pour avoir forgé puis confié à Staline un monstrueux appareil étatique de coercition sans précédent dans l'histoire. » Solzhenitsyn a rendu un service insigne à la Russie et à l'humanité en proclamant la vérité sur les responsabilités de Lénine. Et il ajoutait, ce n'est pas une raison pour raconter après cela des histoires qui n'ont rien de commun avec l'histoire. Et il s'agissait de la traversée de l'Allemagne par Lénine. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'il défend un point de la biographie de Lénine qui est vraiment un détail qu'on peut avoir des doutes sur ce qu'était jusqu'au bout sa critique de Lénine.
Un bolchevisme d'État s'est insensiblement formé qui, après la mort de Lénine, a pris le nom de léninisme. Ce léninisme représente à son tour une simplification outrancière du bolchevisme d'après la prise du pouvoir et une nouvelle étape d'éloignement du marxisme. Non seulement il est en retard sur la vie, encore plus que la doctrine précédente, mais il s'interdit de jamais le rattraper. C'est une théorie qui élimine du marxisme la méthode dialectique, la richesse scientifique, l'universalité, pour n'en retenir que certains schèmes, dépourvus de valeur sans le contenu originel, et une pratique de caractère religieux, soumettant la masse à une obédience, à des formules, à des rites, dont l'ensemble constitue à la fois l'activité du parti et la vie de l'État.
По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой Смоленской, как твои глаза.
две холодных звезды голубых моих судьбы. На дорогой Смоленской, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы гудят, гудят. На дорогой Смоленской, как твои глаза, две вечерние звезды голубых глядят, глядят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза, две вечерние звезды голубы глядят, глядят.
Chez Boris, il y avait longtemps une espèce de blocage sur son passé communiste. Je ne suis pas psychologue pour l'expliquer, mais je connais le fait. Le fait est simple. Il avait récupéré une bonne partie de ses archives de l'époque du Comintern. C'était dans deux casiers métalliques, fermés à clé. J'ai connu Boris en 52. Il m'a ouvert en 62. Et, mais pas à moi, à lui aussi. Je n'ai jamais vu, regarder. Et quand il a ouvert à moi, et, mais pas à, à lui-même. Il continuait à vouloir, si je peux dire, échapper ou ne pas s'occuper de ce passé communiste. Et au fur et à mesure où je consultais les archives, je venais lui poser la question. Et il se rappelait des choses qu'il avait vécues, mais qu'il avait effacé de sa mémoire. Et qu'une fois, je me rappelle même, il n'était pas content, je trouve la lettre qu'il envoie de la prison de la santé en novembre 1920 au camarade Lénine, où il dit que la gauche aura la majorité au congrès de Tours, qu'ils vont gagner, n'est-ce pas? Mais il y a un post-scriptum où il dit qu'il est très malade, n'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé ça très drôle, puisque tous les personnages mentionnés dans la lettre étaient morts. Quand j'ai vu la lettre, il n'y a que Boris qui était vivant. Et il a mal pris cette histoire. Et je me rappelle, après, je lui ai donné la lettre, il n'a pas remis dans ses archives. Et pendant des années, je n'ai pas pu mettre la main sur cette lettre à cause de ce post-scriptum où il se disait déjà très malade en 1920.
C'était un homme qui parlait tout le temps de la mort et de la vieillesse, mais alors avec un désespoir profond. Et il m'expliquait que De Gaulle avait dit quelque chose de complètement idiot le jour où il avait dit « la vieillesse, ce naufrage ». Parce que le naufrage, c'est quelque chose qui se passe lentement. Un bateau s'enfonce. Et que la vieillesse, ça n'était pas ça du tout. C'est un jour, on bascule. La veille, on était encore avec toutes ses forces. Et puis un jour, on a perdu ses forces. Et il est un homme, je crois, si vous voulez, qui n'a absolument pas... qui ne s'est pas préparé à la mort de longue date, qui n'a pas négocié son entrée dans la vieillesse. C'est un homme qui était si plein d'intelligence, de vivacité, que probablement, enfin je ne l'ai pas connu, mais à 82 ans, il ne devait pas penser à la mort. Il pensait encore qu'il avait beaucoup de choses devant lui. Et quand cette chose s'est présentée comme une réalité, alors à la fois, je sais qu'il m'en parlait d'une manière pesante, on n'aime pas entendre parler de cela, et extrêmement révolté. Je crois que vraiment, il s'était battu enfin, toute sa vie, contre tout. Et face à la vieillesse et à la mort, il a eu cette espèce d'attitude extrêmement volontariste et fort. Et c'était très impressionnant. Je l'ai vu très peu de temps avant sa mort, et j'étais partagée entre l'angoisse et puis le fait que je pensais que lui ne se laisserait pas avoir.
Avec les voix d'Alain Orange et Dominique Péju. Les textes de Boris Souvarine sont extraits d'une lettre à Solzhenitsyn inédite, apparaît en février dans un numéro spécial de la revue Est-Ouest, Staline, aperçu historique du bolchevisme, réédité en 1977 aux éditions Champs Libres, La critique sociale, réédité en 1983 aux éditions La Différence, À contre-courant, recueil de textes réunis et présentés par Janine Verdès-Leroux, édition de Noël. Outre plusieurs articles consacrés à Boris Souvarine, la revue Esprit a publié en mai 1984 une bibliographie de textes de Boris Souvarine. Les lettres françaises du 12 mars 1953 nous ont fourni les extraits de presse sur la mort de Staline. Nuit magnétique, Frédéric Gourmand, Claude Courteau, Dominique et Sylvie Péju. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 janvier 1985.